Sing along la giri giri giri. Mambo ni yote bara no da bana kama. Sing along la giri giri giri. Mota yore parwa kwae. Sing along la giri giri giri.
Radio G, 101.5 FM, et c'est l'émission Ça c'est Climat. Une émission d'en transition, nous sommes ensemble une heure pour les initiatives citoyennes pour un monde plus solidaire et plus écologique.
Émission spéciale pendant le confinement, cette émission du 1er mai est rediffusée le vendredi 15 mai à 13h. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter des interviews issues de nos archives. Tout d'abord, Joïc de Solidary Food, une association juive de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, vous partirez à la découverte du Clos de Frémur avec Sébastien qui en est le maraîcher et qui a lancé la cueillette du Clos de Frémur. Nous écouterons alors Florian qui préside cette association mise en place pour gérer cette initiative innovante où les abonnés viennent cueillir eux-mêmes leurs légumes. Enfin, nous écouterons Léa Bilaine qui réalise sa thèse sur les mobilisations écologiques en quartier populaire. Bonne écoute, prenez soin de vous et des autres.
Je suis Joïc de l'association Solidary Food. Donc, nous sommes une association angevine qui lutte contre le gaspillage depuis 2015.
Alors, qu'est-ce que vous proposez comme activité ?
Alors nous travaillons sur deux axes principaux. Donc on a un axe qui concerne la sensibilisation, l'éducation et la formation. Donc là on essaye d'être présent sur les événements grand public sur l'agglomération angevine et on dispense quelques conseils aux consommateurs pour éviter le gaspillage au quotidien. Et on a un second axe de travail donc qui concerne les initiatives locales en fait. Donc on essaye de mettre en place des choses pour limiter le gaspillage sur le territoire, sur le terrain, être concret, être dans l'action.
Et alors cette sensibilisation, quand vous rencontrez des consommateurs, comment vous percevez un peu le niveau de sensibilisation des gens par rapport à ces enjeux ?
Alors après 3 ans de terrain, on se rend compte qu'il y a un véritable intérêt des consommateurs pour trouver des solutions pour limiter le gaspillage et aller vers une alimentation durable et de proximité. On sent vraiment qu'il y a un appel du consommateur pour que les choses changent vers cette voie-là. Nous, on axe beaucoup notre travail sur la jeunesse, donc tout ce qui est collégiens, lycéens et pas mal d'étudiants. C'est d'ailleurs la majorité de nos bénévoles qui sont des étudiants. Donc on sent vraiment qu'il y a de l'intérêt pour cette thématique et on perçoit que ça peut être une porte d'entrée vers la transition énergétique et écologique.
Très bien. Et alors sur le deuxième volet, quel type d'action vous développez ?
Alors sur le second plan, donc ce qui est plus action de terrain, on va pouvoir proposer des ateliers de cuisine collaborative, donc c'est-à-dire qu'on récolte des produits alimentaires auprès de nos partenaires. On invite les bénévoles, des brigadiers d'un jour, d'un week-end, à venir nous aider à cuisiner. Et à l'issue de cette préparation culinaire, on prévoit un repas ouvert au public et souvent proposé à prix libre pour n'exclure personne de ces repas-là.
D'accord, donc on est un peu sur le principe de la disco-soupe.
C'est exactement ça, on décline la disco-soupe, on la fait en hiver, la disco-salade en été. On prévoit des repas aussi un peu plus élaborés lorsqu'on fait des plus grosses collectes, suivant les événements qui se passent. On essaye d'adapter en fait nos actions aux événements qui se passent sur Angers, que ce soit autour de l'alimentaire ou bien pas forcément de l'alimentaire, puisqu'on est tous concernés au quotidien par la nourriture et par le gaspillage alimentaire.
Et alors, est-ce que vous avez des projets sinon dans les cartons ou d'autres activités un peu...
Alors, on a un projet de plateforme donc numérique, mais qui permettra de créer du lien physique, donc qui est en fait une plateforme qui s'appellera pour l'instant EcoGlan et qui aura pour objectif de mettre en relation les producteurs locaux avec les consommateurs qui habitent aux environs des champs et des exploitations agricoles. L'idée, c'est de venir récupérer ce qu'on appelle les restos champs, ce qui constitue 32% du gaspillage sur la chaîne alimentaire. Donc c'est tout le gaspillage en amont au niveau de la production agricole. Et donc là, on organisera des campagnes de glanage en fait, qu'on encadrera pour que les citoyens consommateurs puissent venir chercher les produits directement dans le champ. Et à l'issue de la collecte qu'ils auront réalisée eux-mêmes, on pèsera les produits et ils les paieront au coût de revient. Donc ils auront des produits de proximité à bas coût. Et derrière, l'idée, c'est quand même de générer un revenu nouveau pour l'agriculteur, pour l'exploitant. Donc on reversera l'intégralité. Bon, en enlevant une petite part, puisqu'il faut bien faire tourner la machine et les serveurs et tout ça, et tous les frais informatiques qu'on pourra avoir. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment quand même de créer un système d'échange numérique, mais qui fasse se rencontrer les gens en physique dans les champs pour sauver tout ce qui est gaspillage en amont au niveau de la production.
Très bien, bah, écoutez, ça me semble bien. Je ne sais pas si vous avez un dernier message pour nos auditeurs de Radio G sur voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au quotidien ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Solidary Food.
Alors au quotidien, c'est beaucoup de bon sens, hein, faire attention lorsqu'on fait ses courses, essayer de changer un peu ses habitudes quotidiennes pour aller vers une alimentation peut-être plus raisonnée et plus durable. Pas être forcément dans l'abondance et tomber dans les promotions qu'on peut trouver dans les grandes surfaces ou les choses comme ça, revenir à quelque chose de plus juste et qui nous paraisse plus sain. Et au niveau de l'association, on est en recherche permanente de nouveaux bénévoles, de personnes pour venir nous rejoindre. On a encore d'autres projets que je n'ai pas cités ici, mais il y a forcément des choses qui peuvent plaire à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet solidaryfood.org pour retrouver toutes les informations et nous contacter si vous êtes intéressé.
Très bien, merci Joïc.
Merci beaucoup, Mickaël.
Un jour ou l'autre, noircissent les drapeaux, les colères enflamment de nouveaux troupeaux. Les bruits de bottes et les cris, et je me suis cru à l'abri. Mais est-ce que s'éloigne un jour de l'homme la barbarie? Un jour ou l'autre, les turbulences. Un jour ou l'autre, on se prend à désespérer. Est-ce que notre descendance connaîtra à son tour les petits matins sans violence, la paix et l'innocence? Un jour ou l'autre, se déchaîne le feu des passions. L'heure avance, elle nous pousse à prendre position. Un jour ou l'autre, en nous-mêmes, on fait connaissance avec des peurs profondes, mais aussi courage et conscience. À l'heure des loups, vient le temps des liens. À l'heure des loups, vient le temps des liens. De porcelaine, pas un acquis. La paix conquise par ceux qui prennent le maquis. La paix fiancée à la conscience et dont la vigilance est pour toujours le prix. Alors quoi ? vivre la boule au ventre, barricader et regarder le monde en spectateur apeuré ou débrancher quelques écrans sanglantés. On sait plus quoi foutre de la trouille qui nous agite sous le nez. Moi, les bras m'en tombent, impuissants et cafards, quand il y a tant besoin d'agir et d'y croire. Et ne laisser en moi déjà aucun effroi gouverner, ni aucune des plus belles idées abdiquer. Rencontrer le monde encore, sans repli, sans trembler, le regarder dans les yeux et sincèrement aimer, aimer de mille et mille façons aimer. Les liens, ceux-là même qui savent bien désamorcer de grandes haines, les liens, les proches et les lointains. Dans les forêts de béton où chacun grandit dans son coin, les liens. Est-ce que ça suffit quand se propagent de grands incendies? J'en sais rien, mais je me dis des liens par millions, des petits bras, des empathies et de l'humanité commune brandie comme une patrie. Alors confiance dans les gens, même en de drôles de temps. Garder vivant de l'amour résistant, mettre l'humain au cœur et le cœur à la lutte. Et en face des terreurs, poser un monde plus juste. L'humain au cœur, le cœur à la lutte. Et en face des terreurs, poser un monde plus juste. L'humain au cœur, le cœur à la lutte. Et en face des terreurs, poser un monde plus juste.
Je suis avec Sébastien Brasil du Clos de Frémur. Sébastien est maraîcher bio, mais il a un projet qui dépasse un peu le classique maraîcher bio. Sébastien, alors bonjour, peux-tu nous présenter déjà un peu le Clos de Frémur, ton activité en tant que maraîcher, comment ça se passe?
Alors le Clos Frémur, c'est une ferme sur Saint-James-sur-Loire. C'est une petite ville à côté d'Angers, bordée par la Maine et la Loire. Ça fait 3 ans que je suis arrivé sur cette commune et j'ai repris donc une ferme historiquement en arboriculture. Donc moi j'ai repris, j'ai créé mon activité en maraîchage diversifié, avec un mode de commercialisation plutôt classique, vente à la ferme et biocoop, production de plants et de légumes diversifiés. Et parmi mes 6 hectares que je loue, j'ai un hectare qui est sur Angers, bordé de lotissements et de maisons individuelles.
Voilà, parce que le Clos de Frémur, en fait, même si c'est à Saint-James-sur-Loire, on est vraiment, on touche la ville, et du coup, d'où cette vente directe, et voilà.
On est une des premières fermes en quittant Angers. On est sur Angers là, imbriqué dans le quartier de la Roseraie, un des quartiers de Angers, 30 000 habitants, 40 nationalités, beaucoup de diversité et de tours. Et on a une parcelle, 1,25 hectare, au milieu de ce quartier. Et là je me suis dit, donc j'aurais pu faire un maraîchage classique et vendre mes légumes ailleurs, mais je me suis dit non, j'ai envie de travailler directement avec le quartier et proposer mes légumes au plus proche.
En circuit court.
Et lors de mes voyages, je rencontre donc ma compagne est belge, et là je découvre un système assez innovant que je n'avais jamais entendu parler dans mes formations et ailleurs, un système en auto-récolte sur abonnement. C'est-à-dire que les gens payent un abonnement à l'année, le maraîcher cultive la parcelle et les gens viennent chaque semaine récolter leurs légumes sous les recommandations du maraîcher, qui envoie par mail une liste des légumes à ramasser.
D'accord.
Donc là, il y a beaucoup de légumes qui sont cultivés, et donc toi tu suis un peu la maturité et tu dis ça y est, les courgettes sont prêtes, vous pouvez commencer à les ramasser.
Complètement, complètement. Donc chaque semaine, je leur envoie un mail, ils viennent ramasser avec une règle du lever du soleil au coucher du soleil, du lundi au dimanche, ils viennent ramasser leur part qui leur est attribuée. Sans contrôle ni de moi, ni de personne, chacun en conscience prélève sa part qui lui est due. Donc au début, quand on a lancé le système il y a 2 ans, beaucoup d'inquiétudes sur est-ce qu'on va voler ma part, sur est-ce que je vais avoir ma quantité. Donc des grandes peurs, beaucoup de peurs étaient présentes, mais au fil des années, donc deuxième année, toutes ces peurs se sont envolées et il y a un grand respect du lieu, parce qu'au final c'est presque une extension des habitations de chacun, qui beaucoup de gens n'ont pas de jardin et ont qu'un balcon, et ils voient ça comme un espace de...
C'est un jardin partagé
que j'entretiens. Voilà. Ce jardin, donc c'est moi qui le cultive, mais le plan de culture est défini avec les gens. Chaque année, je fais une proposition et ils valident. Voilà, on rajoute, on enlève des choses.
Quel type de légumes on va cultiver?
La dernière, il y avait trop de choux. Cette année, ils m'ont dit on voudrait de la patate douce. Voilà, donc on rajoute des choses en fonction de leurs aspirations, du public que j'ai devant moi aussi. Pas assez de pommes de terre, donc j'ai mis plus de pommes de terre. Donc voilà, je m'adapte à leurs recommandations.
Ouais. Et du coup, il y a cet échange. C'est vrai que c'est bien qu'on est en circuit court comme ça entre producteurs, consommateurs, à la fois des consommateurs qui ont des attentes, et puis peut-être aussi toi, l'intérêt de peut-être aussi avoir envie de faire découvrir des légumes ou d'expliquer comment on peut. C'est important aussi d'avoir certains types de légumes et de pas consommer que des pommes de terre et des carottes.
Complètement, complètement. Le prix de l'abonnement est aussi collectivement déterminé. Donc moi, je fais ma demande, je dis ben voilà, pour passer mon année, j'ai besoin de X euros, et c'est discuté en assemblée générale et on valide le budget aussi. Quand j'ai lancé ce système-là, je me suis dit super, mais socialement et en termes de découverte du concept et du projet, je me suis dit seul, je vais pas y arriver, parce que c'était innovant, nouveau. Peu de repères, beaucoup de peurs que j'avais pu rencontrer autour de moi en présentant ce projet. Et là, je me suis dit, ok, j'y vais, parce qu'il y avait quand même une attente et je sentais que ça parlait. Je me lance avec une association. Donc là, l'association a été très rapidement créée pendant l'été 2016. Et janvier 2017, on avait nos 80 abonnés et on a lancé tout de suite l'initiative sur 3000 m². Ça a très bien fonctionné, recommunication un petit peu, et on est passé à 120 cette année, cultiver 6000 m² pour demain espérer avoir 150 abonnés pour cultiver presque la totalité de la surface.
Ouais. Et donc sur cette surface là, donc 6000 m², tu disais, combien de ménages, combien d'habitants on peut espérer approvisionner?
On peut espérer 200 personnes. Ça permet avec ces 200 personnes de générer suffisamment de revenus pour avoir quelqu'un à l'année qui travaillerait sur la parcelle 35 heures, même de manière salariale, avec un salaire tout à fait honorable. Et donc ce temps de travail permettrait d'avoir un entretien et aussi d'avoir des rotations régulières pour nourrir au final 200 parts, soit environ 130 foyers au total. Parce que chaque foyer peut prendre plusieurs parts. Donc on a pas mal de foyers qui prennent plusieurs parts. Ça dépend de la composition du foyer. Donc ouais, l'objectif c'est ça. C'est 130 foyers sur une surface donc d'un hectare pour générer et faire vivre une personne. Voilà.
Et du coup, donc on l'a dit, hein, c'était innovant. T'as découvert ce concept en Belgique, et donc depuis que ça s'est mis en place là, est-ce que ça suscite des vocations? Il y a des gens qui viennent voir, qu'ont envie de développer ce type de projet?
Beaucoup de visites, beaucoup de visites. On passe pas inaperçu. On suit beaucoup de porteurs de projets qui viennent voir, des écoles aussi. On reçoit des écoles de plus en plus. Voilà, ça questionne. On n'a pas encore assez de recul pour tirer des bilans, parce que l'aspect social est primordial.
On peut pas. Oui, parce que le côté culture des légumes, bon, tu le fais déjà par ailleurs, etc. Oui. Donc ça, tu maîtrises cette production.
Oui.
Donc,
oui.
Tout l'enjeu, c'est justement justement comment le collectif avec les habitants se forme.
Oui, et ça c'est le grand enjeu, et souvent ça peut faire peur à un porteur de projet parce qu'on perd un petit peu de pas d'autonomie, mais on n'est pas 100% maître chez soi. Je partage le devenir de cette parcelle avec les gens, et ça c'est tout à fait nouveau pour un maraîcher classique qui en général est le seul maître de son bateau et